Livre 2, chapitre 30. Monsieur Lecoq. Au moment où monsieur le marquis de Gaillardbois sortait par la porte principale, celle qu'il donnait sur le petit carré roula sur ses gonds, et la tête velue de l'estropié parut à 6 pieds du sol. Il rampa de manière à mettre ses jambes inertes en dedans du seuil, et quelqu'un ferma aussitôt la porte derrière lui. Monsieur Lecoq prit un des coussins du divan et le lança à la volée. 3 pattes l'atteignit et s'y installa en poussant un soupir de soulagement. « Vous venez tard ce soir, monsieur Mathieu, » dit le patron. « Je n'ai plus mes jambes de 15 ans, » répliqua 3 pattes, « et j'ai fait beaucoup de besogne aujourd'hui. » Placé presque au ras du parquet comme il l'était, il recevait en plein visage la lumière de la lampe dirigée par l'abat-jour. C'était assurément une lamentable créature, mais il y avait une vigueur étrange dans le dessin de ses traits. Ses grands yeux noirs, gênés par les mèches rebelles de sa chevelure, avaient une placidité triste. On devinait dans leur expression la lutte incessante mais résignée contre une souffrance de tous les instants, qu'elle fût morale ou physique. Le reste de sa figure, dont le caractère principal était une immobilité morne, empruntait à sa barbe inculte, bizarrement hérissée, une apparence farouche, et cependant les lignes de son nez, la courbe de ses lèvres, ne manquaient pas de régularité. Étant donné la supériorité manifeste de monsieur Lecoq, la présence de ce malheureux être à par ailleurs dans l'antre où nous le trouvons devait éveiller l'idée d'une possession complète et d'un véritable esclavage. Les gens comme monsieur Lecoq ont des outils humains qu'ils emploient, Dieu sait à quoi. Mais d'autre part, dans la physionomie de l'estropié, quelque chose démentait cette croyance si plausible. Il ne faudrait point parler de lion à propos de ce débris d'homme traînant derrière lui à grand-peine la moitié de son cadavre. On n'a jamais vu de lion paralytique. Mais supposez pourtant qu'il y en eut. 3 pattes essuya d'un revers de main son front, où il y avait de la sueur, et ajouta « Patron, je suis bien là. »« Tu vaudrais trop cher, » répliqua monsieur Lecoq qui se dérida, « si tu avais tes 2 jambes. » Il emplit le verre du marquis jusqu'au bord et le tendit à l'estropié qui but avidement. Pendant qu'il buvait, monsieur Lecoq dit « La préfecture est à nos trousses, sais-tu ?» Il se frotta les mains de tout son cœur. « Ça vous amuse, patron ?» demanda 3 pattes. « Comme un bossu, mon vieux, je te dis tout à toi, car il n'y a que moi au monde pour te donner ce que tu veux. Ça m'amuse, parce que toute la meute va me chercher où je ne suis pas, mais où je pourrais bien être un jour ou l'autre, » se reprit-il, « car la partie vaut la peine d'être jouée. » « Oui, oui, » dit l'estropié, « ce jeune homme a le profil de Louis XVI sur les pièces de dessous, mais il ne peut être que le petit-fils, reste à trouver le fils. » « Tu n'oserais pas te déguiser en Louis XVII, toi, Mathieu, hé ? J'ose tout quand vous commandez, patron. Mais je n'ai pas l'âge. De quelle année es-tu ? 1802, 1803, est-ce qu'on sait ? Pour me marier, je n'ai jamais eu besoin de mes papiers. » Son rire essaya d'être égrillard. « Du diable, si ce ne serait pas l'affaire, pourtant !» grommela monsieur Lecoq en se replongeant dans sa chaise longue. « Sauf ses 20 ans. Mais avec une figure comme la tienne, et tes infirmités causées par les mauvais traitements de tes cruels bourreaux, mais quel gredin que ce geôlier Simon! Comme il t'a arrangé, mon pauvre bonhomme! » Il eut son gros rire, et 3 pattes riant aussi répondit « Le fait est qu'ils m'ont mis dans un triste état, patron. » « As-tu tué, toi, Mathieu ?» demanda Lecoq avec brusquerie, mais sans rien perdre de sa gaieté. Évidemment, il profitait d'un moment d'expansion pour obtenir de son compagnon une réponse parlée ou muette. Mais 3 pattes garda cette gaieté froide en répondant « Et vous, patron ?» Et comme monsieur Lecoq fronçait ses sourcils blancs, il ajouta « Monsieur Schwartz est au salon, vous savez, et la baronne dans le boudoir. » « À 2 pas l'un de l'autre, » murmura monsieur Lecoq subitement déridé au cours d'une pensée nouvelle. « La porte entre deux et elle ne ferme qu'à loquet. » « De quoi serait capable cet Othello alsacien ?»« La baronne sait qu'il est là, » répondit 3 pattes. « Elle a sur la figure un voile épais. » Monsieur Lecoq appuyait le bout de son doigt contre son front. « Il y a des mondes là-dedans, » dit-il avec un orgueil profondément convaincu. « Nous irons loin, monsieur Mathieu, et vous retrouverez une paire de jambes, si cela peut s'acheter, avec des billets de banque. » « À propos de billets de banque, les nôtres sont-ils retouchés ?» 3 pattes déboutonna sa veste de velours et prit un portefeuille dans sa poche. Pendant qu'il l'ouvrait, monsieur Lecoq poursuivit. « Il est bon que ce monsieur Schwartz et sa femme attendent. Il faut qu'il sache de quel bois je me chauffe. On va voir tout à l'heure quelque chose de curieux. J'ai tout dans ma tête, tout. » L'estropié lui tendait deux chiffons de papier. Il se leva pour les aller prendre. « Oui, dit Trois-Pattes, il est bon qu'ils attendent, mais il est aussi bon que vous sachiez ce que vous avez à leur dire, et vous trouverez ça dans mon rapport. » Monsieur Lecoq ne répliqua point. Il examina les deux billets de banque avec une minutieuse attention. « Lequel est le vrai ? » demanda-t-il. « Fais toujours ton rapport, bonhomme. » Il mit dans son œil une petite loupe d'horloger et se rapprocha de la lampe. Pendant cet examen, la prunelle de Trois-Pattes se prit à jeter des lueurs. « En arrivant, dit-il, j'ai trouvé la jeune Edmé Lebert à la porte du château. « Pourquoi mentionnes-tu cela ? Vous allez voir. Monsieur Schwartz m'a reçu, et de son côté, Madame Schwartz a reçu la jeune Edmé Lebert. « Tu as une drôle de voix en prononçant ce nom-là, bonhomme, » fit Monsieur Lecoq sans quitter des yeux les billets de banque. « La jeune Edmé Lebert. « Je n'ai pas le cœur paralysé, » répliqua Trois-Pattes. « Elle est jolie comme un amour. Ah bah, du diable si ces deux chiffons-là ne sont pas en tout semblables. « Tu ne continues donc pas ton conte de la Belle et la Bête avec la comtesse Corona ?»« J'aime les femmes, » répondit Trois-Pattes avec une soudaine emphase. « Moi aussi, » dit Monsieur Lecoq en dissimulant un sourire. « Vous faites un drôle de corps, Monsieur Mathieu. Et vous deviez être un luron quand vous aviez vos jambes. »« Je n'ai jamais eu mes jambes et je suis encore un luron, » prononça sèchement l'estropié. « Les billets vous conviennent-ils »« C'est-à-dire que le graveur de la banque n'y verrait goutte. Il faut tirer, et vite !» On y est, j'ai donné le bon d'avance. Bravo! Avec cela, mon vieux Mathieu, tu pourras te payer un sérail comme le grand turc. C'est avec cela que vous pensez solder mon compte? Commença Trois-Pattes d'un air de mauvaise humeur. Homme de peu de foi, repartit Monsieur Lecoq avec ce parfait contentement de lui-même qui était sa force. Mon plan est chef-d'œuvre, ne sortons pas de là. Il y a une chasse où l'on prend des oiseaux vivants avec un oiseau empaillé. Je n'ai pas plus envie que toi de passer des billets faux, fi donc, pauvre métier. Combien peut-on en tirer en 24 heures? 2 000 par jour, il faut le soin. 3 jours pour 6 millions. Mercredi, je placerai d'un coup tout ce que nous aurons de tiré. Au rapport, marche! J'ai été reçu par monsieur le baron, et j'ai glissé le mot que vous m'aviez dit, commença Trois-Pattes. Aussi, le voilà de mon antichambre. Il vient pour autre chose. Quoiqu'il ait tressailli et pâli quand j'ai parlé de la ville de Caen, du banquier ruiné, du colonel et de l'ancien commissaire de police. Qu'a-t-il dit? Rien. Il m'a interrogé sur la comtesse Corona. Qu'as-tu répondu? Rien. Je ne dois mes comptes qu'à vous. Le baron Schwartz est chez vous ce soir parce qu'il a pris comme un voleur l'empreinte d'une clé qui ouvre le secrétaire de sa femme. Monsieur Lecoq caressait la boîte de carton où était la pelote de cire. Les empreintes pleuvent, murmura-t-il. Puis il reprit tout haut. « Il en est bien capable, mais comment sais-tu cela ?»« Je le sais. »« Et tu ne veux pas dire comment ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Parce que mon moyen de savoir est mon gagne-pain. »« C'est juste. »« Et la baronne ?»« La baronne est chez vous parce que la jeune Edmé lui a rapporté un bouton de diamant perdu dans l'escalier de Monsieur Michel. »« Bon, je sais l'histoire. Et qui puis-je »« Vous verrez. Et en outre, parce qu'elle sait que son mari a pris l'empreinte de la clé. »« Excellent pour le mal dedans !» s'écria Monsieur Lecoq. « Quand un plomb est bon, tout vient l'améliorer. Excellent !»« Je n'ai pas fini. Comme ils venaient sans le savoir au même endroit, le baron et la baronne se sont rencontrés. »« Où cela ?» demanda Monsieur Lecoq qui devint plus attentif. « Dans votre cour. La baronne portait dans une cassette le contenu du tiroir dont le baron va vous demander la clé en échange de l'empreinte qu'il apporte. »« Connaîtrais-tu le contenu de ce tiroir, eh, bonhomme ?» demanda Monsieur Lecoq d'un ton caressant. « Je ne le connais pas, » répondit froidement Trois-Pattes. « La baronne a-t-elle encore la cassette ?»« Non, il y a eu là-bas sous vos fenêtres une scène à la Beaumarchais. »« Tu y as assisté ?»« En loge grillée, c'est mon état. »« Voyons ta scène. Tu as un drôle de corps. » Trois-Pattes reprit posément. « La femme est poursuivie par le mari. Elle entre, voilée comme une figure de deuil. Le mari est sur ses talons. »« Un homme passe dans la cour par hasard. » La femme ne fait ni une ni deux, elle lui plante sa cassette entre les bras et disparaît. « Donnez-moi cette cassette !» crie le mari à l'homme qui reste tout ébahi. « Je vous le défends !» répond une seconde femme non moins voilée et surgissant tout à point pour faire le coup de théâtre. « Qui cette autre femme ?»« La comtesse Corona, parbleu. »« D'où sortait-elle celle-là »« De terre, apparemment. » Monsieur Lecoq appuya sa tête contre sa main. « Et l'homme qui passait par hasard ?» demanda-t-il encore. Le jeune monsieur Michel. Monsieur Lecoq emplit son verre. À la bonne heure, murmura-t-il, tout va bien. Trois Pattes le regarda boire en souriant. La main de monsieur Lecoq avait un tremblement nerveux quand il reposa son verre sur la table. Elle a le secret, hurla-t-il entre ses dents. Je veux le secret. Ce vieil homme me le devait. Elle me détestait avant de balbutier le nom de sa mère. Elle est mon ennemie née, tant pis pour elle. Vous ne parlez pas de la baronne Schwartz ? Demanda l'estropié. Sais-tu, interrogea brusquement monsieur Lecoq au lieu de répondre, ce que la comtesse venait faire dans la maison ? Elle avait à me parler, répliqua Trois Pattes sans hésiter, pour affaire. Monsieur Lecoq jeta sur lui un regard de défiance. À votre place, poursuivit froidement l'estropié, je ferai la paix avec elle. Elle en sait aussi long que vous.
Et plus long que toi ?
Oui, surtout sur ce Bruno qui vous tient tant à cœur. La triomphante figure de monsieur Lecoq s'était notablement rembrunie.
Diable l'a protégé, celui-là, murmura-t-il. Nous l'avons vu trois fois avec la corde au cou. La quatrième fois, quand il revint de Londres, le père nous dit
« Il a la vie trop dure, Anglo Bono. Le père avait été un homme, mais il a mis trop de temps à mourir.
« Maintenant qu'il est mort, dit bonnement Trois Pattes, je ferai bien une affaire à fond perdu avec mon voisin Bruno. »
Monsieur Lecoq prit le pavillon d'ivoire qui rendait à ce moment un appel prolongé.
« Tu ne le perds pas de vue, j'espère, » dit-il avant de mettre le cornet à son oreille.
« Je le suis comme son ombre, » répliqua Trois Pattes. « Je vis dans sa peau. J'ai fait des trous à la cloison pour l'entendre dormir. »«
Tu n'as rien découvert ?»«
Rien, si ce n'est qu'il a fait lui aussi son dimanche du côté de la forêt de Mondy, et qu'il est revenu de Livry à Paris dans le coupé de la voiture, seul avec la jeune Edmé Lebert.
Il faut se hâter, » pensa tout haut monsieur Lecoq. « C'est ici la vraie affaire, il n'y en a pas d'autre. » La poire est mûre à tomber, et quand elle sera cueillie, nous nous moquerons de ce Bruno comme de l'an 40.
Le cornet acoustique lui dit à l'oreille « La baronne s'impatiente et le baron menace. »
« Qu'ils attendent cela, » répondit monsieur Lecoq brutalement et à pleine voix. « Dites-leur qu'ils ne sont pas au bout. Qu'ils attendent, » répéta-t-il en se levant pour arpenter la chambre à grands pas. « J'ai le pied sur leur tête, ils vont en voir bien d'autres. »
Le vent avait tourné, il était en veine de fanfaronnade. « Alors, » poursuivit-il d'un ton vainqueur en s'arrêtant court devant Trois Pattes, qui avait pris sur son coussin une pose commode et paresseuse.
« Le baron a laissé échapper la cassette ?»«
En saluant jusqu'à terre la comtesse Corona, s'il vous plaît. »
« Était-il dupe ?»«
À demi. » »«
A-t-il reconnu son Michel ?»«
Parfaitement. »
Monsieur Lecoq fit claquer sa main sur sa cuisse d'un geste victorieux.
« Tout y est » s'écria-t-il.
« J'aurais payé la fanchette à l'heure qu'elle n'aurait pas mieux manœuvré. »
Le Bruno et ta jeune ennemie me servent sans le savoir. Quand un plomb est bon, vois-tu.
Quelle place demanderais-tu, toi, monsieur Mathieu Farceur, si on me nommait ministre?
La situation nettoyée d'un seul coup.
En avant, plus rien à désirer. En arrière, plus rien à craindre.
Combien crois-tu que peut rapporter un billet de 1 000 francs, prêté sans intérêt à un va-nu-pied pendant 15 ans?
Est-ce assez de 4 millions?
Ne te gêne pas, on pourrait aller à 6.
Ah ah, la poire est mûre! Le vieux le disait bien.
Et tu ne me trahiras pas, Mathieu, entends-tu? Parce que tu sais bien que je vais les jouer tous par-dessous jambes.
De temps de mouvement, allez.
Dans 3 jours, mon camarade, tu auras gagné le gros lot. Assez de profit du roi citoyen sur or et sur argent pour acheter un 2 100 de femmes, puisque tu aimes ça, l'ancien.
J'entends des femmes qui ne se vendent pas, eh? Sans compter toutes les aises de la vie et l'amitié d'un grand homme qui est un bienfait des dieux, dit la chanson.
« Non, la tragédie, » rectifia paisiblement Trois Pattes.
« La tragédie, si tu veux, car tu t'y connais, vieux drôle. Regarde-moi bien.
Avons-nous l'air d'un conscrit, eh ?
Je n'aborde ces questions-là qu'au dernier moment, moi. Dans 1 heure, si je voulais, tu serais en route pour le bagne. »
Trois Pattes baissa les yeux sous la prunelle fixe de monsieur Lecoq. Ce résultat mit le comble à l'exaltation orgueilleuse de celui-ci.
« Je te tiens comme les autres, » poursuivit-il.
Et c'est tant mieux pour toi, car si je n'avais pas une de mes cordes autour de la nuque, je me défierais de toi. Et quand je me défie de quelqu'un...
Assez causé, tu vaux ton prix, et ça m'aurait fait de la peine.
Patron, lui dit naïvement Trois Pattes en relevant sur lui ses grands yeux attristés, je vous jure que je fus plus malheureux que coupable.
Monsieur Lecoq éclata en un rire retentissant.
Barbleu, s'écria-t-il, et moi donc, il est superbe.
Pas moins vrai que tu es enfoncé, monsieur Mathieu.
Il pirouetta sur lui-même et, saisissant le pavillon, et clama dedans.
On y va. Deux petites minutes pour adresser, parer et servir chaud. Et, croisant ses bras sur sa poitrine, la tête renversée en arrière, les narines gonflées, il se retourna vers l'estropié, pensif et humble sur son coussin. Il n'y a plus que moi, reprit-il d'un ton sec et tranchant. L'autre est au diable, il était vieux, il me gênait. Je n'aurais pas touché un des cheveux blancs de sa tête parce qu'il était le père, mais il est mort, et je suis le père à mon tour. Le général de la Camorra, l'habit noir selon le rite de la Merci, le maître à Paris, à Londres, le maître partout. Ces deux-là qui attendent sont ma proie, tu le sais. Mais comment va-t-on dévorer cette proie? Personne, pas même toi, n'est capable de deviner. Regarde bien pourtant afin d'apprendre. Je les entame par l'attente, je les brise d'avance. Je les humilie, je les macère. Je leur fais peur. Cela me grandit en les rapetissant, cela me donne toute la force qu'ils perdent. J'ai l'air de bavarder, mais j'agis. Plus ils attendront, plus ils seront souples, et il me les faut souples comme des gants de chevrouet. Jadis, nous étions obligés de pateliner comme le chat autour de la souris. Nous faisions bouche en cœur et nous courbions les chines. Tout cela est changé. Selon les temps, le monde prend telle ou telle façon de tomber en enfance. Il était cagot, il est philosophe, et devient idiot à force de craindre croque-mitaine calotin, Tartuffe, Basile et autres monstres de carton collés par les hommes de génie. Changement de front sur toute la ligne. L'opposé de Tartuffe est le bourru bienfaisant. Sois brutal, on te croira. Mène les gens à coups de pied, voilà ta franchise. Parle à tout instant de ton égoïsme, on se dira, c'est un apôtre. Molière et Beaumarchais ont fait réussir bien des affaires, car l'hypocrisie allait se fanant au métier qu'elle menait depuis si longtemps. Bonhomme, tu vas voir comme nous avons profité à la comédie. Donne-toi la peine d'entrer au corps de garde. Il désignait la porte de la petite chambre nue. Il y a là un guichet pour entendre et voir. Il y a du papier, une plume et de l'encre pour écrire. Pendant qu'il parlait, trois pattes avaient traversé la chambre en rampant. Au moment où il passait le seuil de la pièce voisine, Monsieur Lecoq acheva en piquant ses paroles. « Écoute, regarde et prends des notes. Ceci est sérieux comme 4 millions. Tu vas être à la fois un témoin et un greffier. »« C'est bien, » dit l'estropié. « Qu'on introduise Madame la Baronne, » ordonna Monsieur Lecoq dans le pavillon d'ivoire.